En fait, je voulais juste parler deux secondes du ROC, parce que ça n'a pas été du tout abordé. Donc, le ROC, c'est Réseau Ouvert de Coopération, donc ça ne veut absolument rien dire. C'est dommage que ouais, les comédiens ne soient pas là. Donc, c'est en fait un espace interassociatif qui a été créé il y a 4-5 ans à l'initiative de 4-5 petites associations pour réunir les acteurs de la politique de la ville dans le département d'Indre-et-Loire. Et les centres sociaux n'ont pas du tout été moteurs de la création de ce réseau. Et par contre, on a réussi à les y faire venir au bout de quelques années. Et maintenant, ils y sont tous. Et ils ne sont pas toujours là, mais Thierry est très fidèle. Voilà, est devenu un élément moteur de ce réseau. Donc je pense que pour moi, ça a été un espace aussi de politisation ou repolitisation ou approfondissement pour les centres sociaux. Et voilà, je suis étonnée que ça n'apparaisse pas depuis hier, donc je voulais en parler.
J'ai entendu que vous avez dit du bien de la forme de débat de la fin de l'après-midi d'hier, c'est-à-dire des groupes. Alors que la forme actuelle, je pense qu'elle ne permet pas à tout le monde de pouvoir bien s'exprimer. Et donc elle permet à certains qui sont peut-être un peu plus hardis de prendre la parole, surtout en étant debout et face à la caméra. Donc ma suggestion, elle est entre les lignes, c'est qu'il vaut mieux donc, adopter ces formes de débat qui encourage le débat, et pas seulement permettre aux gens de s'exprimer, à certaines personnes parmi nous de s'exprimer publiquement.
Dans l'histoire, j'ose plus mettre debout, en fait, hein, parce que... Mais je pense que vous avez raison aussi sur les façons de mettre en débat, de pratiquer l'échange. Voilà, il y a des manières de faire. Il y a aussi des rencontres là dans les pratiques. Et puis on va continuer à s'améliorer. Moi, je voulais surtout dire, à un moment donné, l'une d'entre vous a dit peut-être qu'on vous montre une vision décevante. Moi, je trouve surtout que c'est une vision extrêmement éclairante. Et j'ai trouvé vos trois propos absolument passionnant, et ça fait très directement écho à toute la réflexion et toute la démarche aussi qu'on a envie de porter au niveau du réseau national, à travers notamment le lancement de la démarche congrès de notre réseau, où on a envie d'aller vers plus de politisation. Donc là, vous nous amenez des clés de lecture sur comment fonctionne et comment vit et comment se situe aujourd'hui une partie de notre réseau. Et donc, il y a aussi des clés de progrès là-dessus. Et puis, je voulais aussi faire le lien entre centre social sur le plan local et justement approche d'un réseau de centres sociaux et de 1300 centres sociaux qui adhèrent à notre beau réseau national. Et je pense que cette question de la politisation, il faut aussi qu'on arrive à la réfléchir entre les différentes échelles, quoi. C'est-à-dire que on ira aussi sûrement vers plus de politisation si on est un réseau qui est en capacité de s'emparer et de faire converger ou se rencontrer des démarches locales de politisation qui se passent sur un certain nombre de sujets, et puis qu'on les éclaire, qu'on les rassemble et qu'on les transforme aussi en quelque chose de puissant sur le plan national, dans notre capacité aussi à démontrer des choses, à négocier, à interpeller. Et je me dis que là aussi, on a un beau sujet de travail pour tout notre réseau.
Moi, ce serait plutôt une question que je voudrais poser qui concerne... Je voulais savoir si dans votre travail de recherche, vous aviez pu... C'est bizarre de s'entendre. Vous aviez pu analyser le parcours de professionnalisation des salariés des centres sociaux et de voir les effets des modifications, notamment l'animation ou le travail social, des modifications de formation initiale et si ça avait un effet, je dis ça par exemple, dans les années 80-90, le DEFA par exemple était un diplôme dans l'animation qui était assez engagé, politisé, et puis la modification vers des DGEPS, beaucoup plus à base de compétences, nous empêche de voir de façon globale un processus de politisation. Et je me demandais si vous aviez pu observer ça dans votre recherche.
Bonjour, j'avais plusieurs questions. Je voulais savoir, vous avez la première personne qui a parlé, je ne me rappelle plus de votre nom. Vous n'avez pas oublié de répondre à cette question, mais vous avez dit en introduction que pour vous c'était un sujet de départ, cet enjeu du pouvoir d'agir. Je ne sais pas si vous voulez développer là-dessus ou pas. D'accord, ça marche. C'est pour ça que j'avais d'autres questions aussi. Non, mais je comprends bien. Ouais, j'aurais essayé quand même. Merci. Non, la deuxième question, c'était sur les obstacles qui sont repérés à la politisation dans les centres sociaux, c'est le fait que pour pouvoir participer, il faudrait être capable, en gros, être capable d'être formé, être riche, parce qu'avoir les moyens pour pas être juste subvenir à ses besoins, et être un intellectuel, parce que c'est une réflexion abstraite et des débats. Et ça, c'est un construit historique aussi. Enfin, c'est l'idée que les gens qui sont assistés ne sont pas capables de faire de la politique. Et je pense que ça pourrait être intéressant de tirer le fil de d'où ça vient historiquement, le fait qu'on ait construit le social comme un espace pas politique, et qu'on refuse en fait l'accès à... aux politiques, aux gens qui sont non formés, non riches ou non intellectuels, quoi. Et j'avais une dernière question, mais je ne m'en rappelle plus, donc ça ne peut pas être très grave. Voilà.
Super, merci beaucoup. On va prendre les questions. On va d'abord peut-être faire des réponses et après on prendra d'autres questions. Vas-y. Attends, Julien.
Bonjour. Deuxième
partie, c'est l'autorité de président science.
Deuxième tour.
Peut-être au deuxième tour.
Juste répondre à la question sur d'Emilie sur les trajectoires des professionnels. On en a un petit peu parlé hier. En fait, quand on s'est intéressé à la diversité des conceptions du pouvoir d'agir portées par les équipes salariées, en fait, ce qu'on a perçu, c'est qu'il y avait des perceptions très différentes et qu'elles étaient liées aux trajectoires des salariés, notamment des études, mais aussi des trajectoires professionnelles, militantes, familiales. Et là-dessus, c'est vrai que la question de la formation, c'est un point qui paraît assez important à la fois... La loi de formation initiale, effectivement, à la fois pour comprendre pourquoi certaines personnes vont se sentir plus, on va dire... peut-être plus à l'aise avec cette notion, en tout cas ça va davantage leur faire écho à leur pratique, même si le mot n'est pas forcément utilisé, mais disons que la notion de pouvoir d'agir fait écho directement à des pratiques, souvent c'est en lien avec certaines formations, mais ça peut être aussi plus largement une socialisation dans les idéaux de l'éducation populaire. Et on avait vu aussi en quoi cette question de la formation, elle peut être un obstacle à l'idée de développer le pouvoir d'agir, et notamment avec l'évolution des diplômes dont là tu parlais, et par exemple ce qui se fait dans les formations, de réfléchir de proposer des projets, de venir avec des projets avant de savoir ce que les habitants en pensent, et ça on l'a repéré en discutant avec des salariés, que c'était vraiment un obstacle à cette visée là.
Pour répondre très, très rapidement à la remarque, oui, on a expliqué hier que dans le format d'hier et d'aujourd'hui est un format dans lequel on a essayé de prendre en compte la dimension collaborative et voilà, qui n'est ni le format d'un colloque académique pur, ni le format d'une journée régionale organisée par la Fédération. Donc oui, ce format-là permet des choses, en empêche d'autres, mais rien n'interdit au réseau fédéré et à chacun des centres sociaux de s'emparer de ces questions pour organiser des discussions et du travail dans des formes adaptées pour que tout le monde s'exprime. Voilà, il y a de vastes horizons qui sont ouverts pour poursuivre là-dessus. Et juste pour rebondir brièvement sur la remarque de Jérémy. Je pense qu'effectivement, ce que j'ai indiqué sur la conception de la citoyenneté capacitaire, qui est qu'effectivement, avant de pouvoir être reconnu comme citoyen ou citoyenne, ou avant de se percevoir soi-même comme tel, il faudrait qu'on ait acquis plein de compétences, qu'on soit libéré des contraintes matérielles, etc., etc. C'est très fort dans les centres sociaux historiquement, mais c'est très fort historiquement dans les centres sociaux parce que les centres sociaux sont aussi le produit d'une histoire sociale et politique et qu'ils ne sont pas, de ce point de vue-là, déconnectés de l'histoire de la société française et d'une certaine conception républicaine qui veut, effectivement, on aurait pu rajouter à ta liste être capable d'être formé, être riche, être intello, être un homme, voilà, ça, et être blanc. Voilà. Je pense que si on complète avec être un homme et être blanc, on a le modèle idéal du citoyen et que tout l'enjeu est justement d'arriver à penser la citoyenneté autrement. Et il y a d'autres là-dessus, je ne les ai pas évoqués parce que ce n'était pas l'objet, mais il existe dans la littérature et dans les formes d'engagement d'autres manières de penser la citoyenneté que cette définition capacitaire. Et ce serait peut-être bien là aussi de s'en réemparer pour influer sur ce morceau de l'histoire qui est un morceau d'histoire partagée de la société française et qui n'est pas forcément propre aux centres sociaux, même s'ils en sont peut-être le parangon parfois.
Rien sur ton roman ?
Non,
toujours pas. Bon, j'aurais essayé. Hein. Non, moi, je voulais effectivement juste rebondir aussi, peut-être pas répondre à votre question, monsieur, sur l'histoire du débat et de la. Mais c'est vrai que ça pose question. Enfin, hier, en fait, par exemple, moi, je me suis mise dans la position assez rapidement du chercheur et j'ai pris des notes. Et en fait, j'ai vu. Du coup, j'ai utilisé la matière. Voyez la posture que j'ai prise. J'ai utilisé la matière que j'ai recueillie hier dans le débat pour essayer de vous la servir de façon assez peu analysée aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une vraie. Bon, on en a déjà parlé un peu hier, mais ce temps d'échange, de débat, il en sort des choses. Mais à un moment donné, c'était aussi une question d'hier dans le groupe. C'est mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Une fois qu'on a recueilli ça, l'étape 2, c'est quoi ? Et voilà, je contribue juste à votre réflexion, je suis d'accord avec vous.
Bonjour, merci pour cette matinée hyper riche. Moi, je voulais poursuivre un peu le débat sur les freins à la politisation dans les centres sociaux. Alors, c'est notamment par rapport aux interventions d'Héloïse et Catherine, mais ça a vocation à être plus transversale. C'est que vous avez beaucoup insisté en fait sur les, et c'était probablement l'essentiel de votre enquête, sur les interactions entre les salariés et les usagers habitants des centres sociaux. Vous avez néanmoins évoqué les freins plus institutionnels liés aux conditions de financement, etc. Mais moi, j'aurais bien aimé quand même creuser un peu cette question-là, qui sont les freins institutionnels au développement du pouvoir d'agir et à la politisation dans les centres sociaux. Est-ce que vous avez observé, puisque c'était principalement de l'observation, des rappels à l'ordre institutionnel qui ciblaient éventuellement des salariés des centres sociaux issus de tel ou tel financeur ? Dans quelle mesure la participation, par exemple, d'élus au sein des conseils d'administration des centres sociaux peut être un peu paradoxalement une sorte de frein à la politisation des centres sociaux, ou est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes des vecteurs de politisation ? Les élus peuvent être un peu ambigus de ce point de vue-là. Moi, dans ce que j'ai pu observer, c'est un peu bizarre des fois de se dire que des professionnels de la politique sont les premiers à dire « Non, mais il ne faut pas parler de politique, en fait. » Et alors, est-ce que vous avez vu des choses de cet ordre-là ? Voilà, ce qui fait un petit peu écho aussi à la première intervention au début de la matinée, qui est jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'il y a une culture de l'évitement du conflit qui ne vient pas de n'importe où. Et moi, c'est quelque chose que je ressens très fort, en fait, dans quelque chose que je sens assez fort dans les discussions que je peux avoir avec des directeurs de centres sociaux ou des travailleurs sociaux. C'est le sentiment, quand même, en permanence, que pèse une sorte d'épée de Damoclès et de chape de plomb dans leurs relations avec leurs partenaires institutionnels et qui est déterminante. C'est-à-dire que, alors, on peut évoquer les conditions de formation, de socialisation professionnelle et qui jouent un rôle. Mais moi, je pense, et probablement qu'ils sont nombreux dans cette salle, qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, de salariés de centres sociaux qui sont des entrepreneurs du pouvoir d'agir, des gens qui sont des militants du pouvoir d'agir et de la politisation. Mais qui se disent que c'est coûteux et que c'est risqué, quoi. Et que, à un moment, entre aller jusqu'au bout, qui serait probablement de s'engager dans des mobilisations contre l'ANRU, contre le bailleur, contre la municipalité, etc., et perdre son boulot, bon, pouvoir d'agir, c'est peut-être pas si grave, en fait. Et donc, est-ce que vous avez vu des choses comme ça, ou c'est moi qui, dans mes délires quelques énervés de travailleurs sociaux, je vois ça dans mes pérégrinations ? Merci.
Bon. Ouais, le bruit court que tu auras une réponse dans le roman, a priori. Voilà. Allez-y.
Ouais. Oui, moi je voulais juste intervenir parce que, bah oui, hein, ces coups de pression, c'est une réalité. On va dire de la part de tous les financeurs. Voilà. Après, j'ai envie de dire. De toute façon, toutes les associations, ces coups de pression, non, comment dire, plutôt dans l'autre sens, où finalement, les politiques peuvent du jour au lendemain décider d'un coup de crayon d'arrêter les financements, même si l'association est loyale, etc. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans une autre association, où tout d'un coup, tout s'est arrêté. Pour une histoire qui est privée, qui n'avait rien à voir avec... voilà. Et donc, je me suis dit, bah, faut que ça me serve d'expérience de me dire que de toute façon, bah, voilà, c'est un rapport de force. Et il faut appuyer... Enfin, je veux dire, faut pas se laisser malmener comme ça. Et c'est justement parce qu'il y a ce rapport de force et qu'on est plus fort et qu'on est appuyé par la population, etc. Et c'est justement en s'appuyant sur cette politisation et cet engagement qu'on va être plus soutenu par la population. Et la force des centres sociaux, c'est leurs adhérents, c'est leur finalement, c'est la population, c'est les habitants du quartier. Donc voilà, donc je suis plutôt pour le rapport de force et que ces coups de pression, finalement, bah, il faut y résister. Et puis après, chacun a une échelle. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais que les financements peuvent s'arrêter du jour au lendemain pour une histoire qui n'a rien à voir. Quoi. Donc voilà.
Ah, d'accord. Il n'y aurait pas de centres sociaux s'il n'y avait pas d'adhérents. Et on est là quand même et on a bien apprécié Laure et Anne en tant que chercheuses. Et voilà, je voulais le dire.
Bonjour, merci de ce matinée. J'ai une petite question qui j'essaierai de faire pour en tant que membre de centre social. Et en effet, j'aimerais bien savoir si vous avez trouvé des sortes de coopération entre cet positionnement politique des du personnel à employer, des salariés, et les positionnements politiques des bénévoles. C'est-à-dire, je me demande si dans les autres centres sociaux de la région, il y a des sortes d'interactions avec ces deux groupes qui, ils sont là, on se côtoie tous les jours à peu près, mais je n'arrive pas à comprendre dans la discussion d'aujourd'hui comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a de la possibilité de coopération. Et pour revenir justement à la dernière question de la pression sur, par rapport aux bailleurs de fonds, oui, c'est vrai, mais quand même, agir parfois, ça signifie perdre 15 places, 15 personnes, 15 familles. 15 familles qui mangent tous les mois. Donc avant de prendre position, on réfléchit. C'est vrai, entre guillemets, ça fait peur.
On va passer aux questions, aux réponses, pardon. Ouais.
Bonjour.
Vous voulez pas que je parle ?
J'ai été coupé ou ?
Oui, bonjour. Donc, je travaille dans un centre social, je suis salarié. Et mon propos va rejoindre ce que disait Julien juste avant. Et j'en ai parlé hier dans notre groupe de discussion. C'est vraiment à nous, centres sociaux, de faire tomber tous ces complexes qu'on a. Et hier, je le disais, je répète un petit peu pour ceux qui étaient avec dans mon groupe. On a un complexe d'infériorité parce que on est obligé de faire appel à des chercheurs pour être plus visible. On a l'impression qu'on doit passer par des intellectuels, par des chercheurs pour mettre en avant ce qu'on fait déjà au quotidien. On a un complexe de supériorité parce qu'on est persuadé que tout passe par les centres sociaux. Et on n'imagine pas tout ce qui peut se faire à côté, par les habitants eux-mêmes, par les autres associations. Donc voilà, c'est des complexes comme ça. Et je rejoins madame aussi. Je ne sais pas qui a besoin de qui. Est-ce que c'est les politiques qui ont besoin de nous ou nous de eux? À partir du moment où ils ont validé un projet, où on est expert d'un territoire, où on... Comment dire? Cherche mes mots. Je suis ému. En fait, ils nous valident un projet social. On se met en tant qu'expert d'un territoire, on est à l'écoute des habitants, et ça rejoint aussi le propos de monsieur là-bas, qui disait qu'on est juste là pour exprimer ce qui se dit par les habitants, et du coup, pourquoi on aurait un risque à dire et à se politiser, quoi, à dire ce qui se passe sur le territoire? On est juste la voix de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment à nous de faire évoluer cette posture, parce qu'on parle constamment de posture, et d'aller peut-être au rapport de force, peut-être d'aller d'être un peu moins soumis. Voilà. Donc, voilà, c'était mon petit propos à moi. Merci.
Je peux, ouais. Alors je vais en profiter, je vais faire une petite une réponse qui va répondre un petit peu à toi, Farid, et puis à vous. En m'appuyant, alors cette fois-ci, c'est pas l'administrateur qui parle, c'est le directeur du centre social de l'Arabière. Je me détourne. Je trouve qu'on a une expérience en ce moment assez particulière, puisque dans le cadre de la politique de la ville, on a déposé des dossiers. Et un dossier particulièrement qui s'appelle « Comprendre et agir contre les violences urbaines ». Donc du coup, vous voyez, c'est hautement politique. On est financé pour ce dossier, évidemment, par la ville, par la préfecture, CGET. Et là, on s'aperçoit effectivement, alors donc, du coup, ce dossier-là, financé, nous permet de financer et d'aider à l'accompagnement, notamment d'un groupe de personnes présentes au fond de la salle, et qui aident justement à comprendre ce qui se passe dans ce quartier-là, comment en parler avec l'ensemble de la population, comment éventuellement trouver des solutions, comment aller à l'extérieur pour rencontrer notamment les jeunes, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est quand même la première fois sur un dossier de ce type-là qu'on a régulièrement, alors effectivement, des pressions. Je dirais, il n'y a pas d'empêchement, la preuve. Il le finance. Mais en même temps, c'est la première fois qu'avec ce dossier-là, on a, alors je me tourne vers Sylvie, on aimerait bien avoir un bilan, alors tous les mois, là, tous les deux mois, on aimerait bien savoir où vous en êtes, on me demande pas ça sur le dossier de la fête de quartier, hein, ça avance, ça continue. Donc du coup, voilà, un rapport un petit peu différent. Alors c'est de l'attention. C'est pas de l'interdiction, c'est de la tension. Mais on maintient, on réexplique, on travaille. Il vaut mieux parler des choses que d'attendre que ça explose. Voilà. Alors du coup, c'est intéressant parce que moi, professionnellement, c'est la première fois que j'ai ça, où effectivement, c'est à la fois on a un financement pour quelque chose, mais en même temps, on est regardé à la loupe pour voir si ça va pas déraper ou si ça va pas. Voilà. Donc voilà, c'était juste une expérience, mais ça dit que les choses bougent, on peut les faire bouger. Mais ça demande aussi à être armé. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une pression sur les personnes qui accompagnent, sur les personnes, évidemment, sur les habitants par rapport à ça, et puis bah, pour l'ensemble de la direction et de l'association d'une manière générale. C'est Sylvie qui veut réagir, j'ai l'impression, en direct.
Juste pour préciser, en fait, que quand même, il y a des propos assez forts qui nous ont été tenus, hein, je dis nous, parce que... On fait partie, voilà, j'accompagne le collectif. Notamment, on a organisé une soirée avec une sociologue, Lila Belkacem, autour des discriminations à l'école. Et on a quand même eu un retour assez immédiat et un rappel à l'ordre, en nous disant on ne peut pas, en fait, dénoncer des... on ne peut pas dénoncer les travers d'une institution quand on est financé par... des organismes publics. Attention, vous allez trop loin dans l'accompagnement d'initiatives, d'actions, de projets. Voilà. C'était quand même pas rien à entendre.
Donc faut y aller, quoi.
Faut semer des graines.
Tout
te laisse, puis je compléterai.
Oui, peut-être pour répondre à Julien, effectivement, on a observé, à Julien Talpin, on a observé des freins institutionnels. Alors, les rappels à l'ordre, il y a un exemple qui a été donné. On en a observé d'autres dans la recherche, des rappels à l'ordre institutionnels directs. Par exemple, un centre social qui se mobilise avec les habitants contre un bailleur social sur des questions d'augmentation des charges et avec un rapport, là, enfin, un retour direct sur c'est pas votre rôle, quoi. Donc. Mais on a aussi beaucoup observé des effets d'autocensure. C'est-à-dire pas seulement plus que des rappels à l'ordre, il y en a, mais on a beaucoup observé des anticipations en fait de ah là là, mais qu'est-ce que vont en penser les financeurs et un exemple très concret, par exemple, des associations d'un quartier populaire qu'appellent un centre social dans une petite ville à faire une pétition pour faire en sorte que les transports soient qu'il y a un prix réduit, on va dire même pas gratuit, mais réduit. Et là, le centre social, en fait, avant de signer la pétition, appelle l'élu de référence pour voir si ça va pas poser de problème avec la mairie, et ça va poser un problème, donc ne signe pas. Alors que peut-être que ça aurait été possible de signer, que ça aurait pas eu forcément plus d'impact que ça, mais beaucoup de comme ça, des effets d'autocensure. Et je pense que c'est la même chose pour la participation des élus au CA. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il y ait un élu ou plusieurs dans un CA, ça fait qu'on va peut-être s'empêcher de parler de certains sujets, par exemple sur l'accueil des migrants, là où l'aborder d'une manière qui est peut-être plus consensuelle, en disant l'élu est là, du coup comment est-ce qu'on se positionne, alors que c'est des effets d'autocensure, quoi. Enfin, alors, qui s'expliquent par le fait qu'il y a des financements à la clé, il y a des structures, il y a des emplois, et donc il y a des choses en jeu, mais en même temps, il y a des centres sociaux qui ont aussi, même si c'est peut-être qu'on l'a moins observé dans la région, mais qui peuvent aussi avoir des postures plus de mobilisation, plus dans la figure de la capacitation, et qui continuent à exister dans la plupart des cas. Donc,
oui, juste pour compléter là-dessus, je pense qu'effectivement, il serait absurde de nier l'existence de ces formes de pression et du thème très classique pour toutes les associations, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Et certains élus, effectivement, le formulent, y compris comme ça, de manière très claire, on vous finance, vous ne dites rien, quoi. Donc ce serait absurde de nier ça. Mais je pense qu'effectivement, la capacité d'autocensure est quand même assez forte et qui, me semble-t-il, reflète l'intériorisation, pour reprendre ce que disait Farid, d'un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire, c'est l'idée que qui a besoin de qui dans cette affaire ? Et l'idée que les centres sociaux ne sont peut-être pas assez confiants dans le fait que les institutions publiques ont besoin d'eux. Et du coup, se mettent en position sans cesse de protection. Parce qu'il n'y a pas ce sentiment que on représente quand même des choses et ça nous donne une puissance et une force qui nous permettrait d'être plus dans une relation de partenariat réel avec les institutions publiques. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même des expériences qui ont été menées dans le réseau qui montrent que c'est possible. Si je mentionne juste la maison de santé communautaire aux Trois Cités à Poitiers, les habitants se sont mobilisés pour fabriquer cette maison de santé communautaire. La mairie n'a pas voulu financer. Il y a eu beaucoup de pression de la part de la mairie. Ils ont financé l'affaire avec un système de crowdfunding, de financement participatif. Ils ont obtenu l'argent nécessaire. Ils ont fabriqué le truc. Ça a été lancé. Une fois que ça a été lancé, la mairie a dit « ben ouais, c'est vachement bien ». Et donc, mais du coup, ça a transformé les relations aussi partenariale entre la mairie et les centres sociaux. Donc je pense que dans le réseau, il est possible aussi de trouver des expériences qui montrent qu'il y a des marges de modification de ce rapport partenarial souvent inégal entre les institutions financeuses et les centres sociaux.
Si je peux me permettre de rebondir encore sur cette question, de la marge de manœuvre. Je voulais poser une question qui s'adresse autant à Julien qu'à l'équipe, en fait, parce que Julien a bossé sur ça, sur cette tentation et ces pratiques de contrôle par les institutions des acteurs de la vie civile. Moi, la question que je me pose, à la suite des expériences de recherche que j'ai eues, notamment celle de 2013 sur les centres sociaux, je vais raconter une anecdote d'ailleurs sur cette recherche. Le centre social qui est anonymisé dans le rapport et qui m'a servi à construire la figure de la capacitation est un centre social qui opère dans une mairie qui, à l'époque, était une mairie Les Verts. J'avais rencontré l'adjoint à la citoyenneté et à la politique de la ville, qui avait passé environ 20-30 minutes à me faire la louange de Porto Alegre, des budgets participatifs, de la démocratie locale, etc., etc., et qui avait conclu en disant « Mais là, par contre, le centre social, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. D'ailleurs, on se demande si on ne va pas le municipaliser. Hein. Ils sont insupportables. » Voilà, ça, c'est la première anecdote. J'avais envie de donner une autre anecdote. C'est que récemment, j'ai fait une mission sur le pouvoir d'agir des habitants d'un quartier qui va très, très mal en banlieue parisienne pour le compte de la mairie communiste de cette banlieue, de cette banlieue parisienne. Et le cahier des charges non écrit, c'est-à-dire celui qu'on m'a donné en début de mission, entre quatre yeux, dans le bureau de Madame le maire, c'est faites attention, monsieur, parce que nous avons l'opposition à la République en marche qui est en embuscade. Ce qui veut dire, c'est que si vous aidez à ouvrir des espaces critiques, vous allez renforcer le pouvoir d'agir de l'opposition. Voilà. Et pour, comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça, l'opposition, la République en marche, elle est en embuscade à la mosquée. Donc, n'allez pas essayer de chercher des ressources à la mosquée. Parce que plutôt que renforcer le pouvoir d'agir de quartier, vous allez renforcer le pouvoir d'agir de la République en marche qui va nous faire tomber aux prochaines élections. Et la question qui se pose là, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme structurel entre le pouvoir basé sur un territoire que peut construire un centre social et le pouvoir municipal? Parce que le pouvoir que construit un centre social à partir de ses habitants consiste à ouvrir des espaces critiques. Et un pouvoir municipal, à partir du moment où des espaces critiques sont ouverts, cet espace critique est offert sur un plateau à sa propre opposition. Alors comment on fait là? Voilà. Enfin, c'est une question que je me pose à moi-même et que je vous soumets.
Tu veux répondre? Non. Ok. Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière petite question.
Alors c'est pas une question. Je me démasque. Alors notez mon courage. Donc je travaille à la préfecture. Donc voilà, je me lève et je me rassois aussitôt. Donc oui, je prends la parole justement pour faire une remarque, enfin pas une remarque, mais une observation sur ce qui a été dit. Alors je participe depuis hier matin et je suis tout à fait, enfin je trouve que le travail qui est rendu est vraiment très très intéressant. Alors quand je dis que je me démasque, c'est que je suis la déléguée de la préfète. Donc effectivement, sur les questions de la politique de la ville, et je ne me retrouve pas tout à fait dans ce qui est dit ce matin sur le rapport aux institutions. Moi, j'ai un rapport effectivement avec les acteurs de terrain, notamment les centres sociaux, surtout les centres sociaux, et j'ai le sentiment d'avoir une parole très décomplexée avec les centres sociaux, et j'ai le sentiment qu'on me le rend bien aussi. Alors donc c'est quelque chose qui a priori, enfin moi je trouve qui fonctionne, et j'ai aussi cette parole que je fais remonter au corps préfectoral, comme on dit, de manière aussi assez décomplexée. Voilà, alors la deuxième phase, une chercheuse parlait de qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on entend. Eh bien, moi, j'ai aussi ce même problème. J'ai aussi cette même question. Voilà. Mais en tout cas, je ne me sens pas tout à fait, attaquée. Et je n'ai pas l'impression d'être une pression ni une menace pour vous, les structures et les centres sociaux. Voilà, je voulais vous le dire comme ça. Voilà. Et je suis filmée, mais bof, c'est pas terrible parce que il y a la période de réserve et tout ça, donc moi je suis pas forcément à l'aise avec ce que j'ai dit. Donc voilà, ça fait partie de mes difficultés. Merci.
Bon, merci beaucoup. Hélène, on va. Alors moi je suis la dernière pour le coup, puis on va passer à la suite.
Merci. Donc je m'appelle Jean, je suis directeur de centre social, associatif. En Indre-et-Loire. Non, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur les pressions, les risques, etc. Donc tout est vrai et je pense que tout le monde et surtout les directeurs doivent bien le savoir. Je voulais dire que on peut pas voir seulement les restrictions qu'on se donne ou voilà comme de l'évitement, comme de l'autocensure. Je pense qu'il faut voir l'autre côté aussi qui est volontaire et qui est aussi à voir comme parfois des choix tactiques ou stratégiques et qui est tout simplement aussi la prise en compte de son environnement. Auquel il faut s'adapter et voir par quels sont les biais, quels sont les chemins qui sont les meilleurs à prendre pour aboutir, pour réussir, qui fait partie pour moi, je crois, de mon métier, de mon rôle, et qui est aussi un aspect qui ne veut pas dire qu'on est moins actif. Sachant que d'un autre côté, on n'a rien à gagner à se casser la gueule, à se planter et à faire perdre des choses au centre social. Voilà.
Ok, on va. Il va. Ouais, je sais pas. Peut-être on peut garder votre question pour le deuxième temps de débat. Bon, c'est pas bah, c'est pas une... alors c'est une toute petite. Tout petit. Et on me demande si vous pouvez.
Je
vous
fais super rapide, promis. En fait, c'est juste comme on est beaucoup à être intéressé par l'idée de la suite, de qu'est-ce qu'on en fait. Dans notre groupe hier, on a abordé l'idée que rien que parfois l'affichage en fait de paroles, ça peut être un moyen de réponse. Et je me dis qu'on a des fois des temps en réunion, enfin que ce soit départemental ou régional, et ça peut être un thème de réflexion commune à avoir de qu'est-ce qu'on en fait, quel mode d'action on peut avoir, qu'est-ce que chacun a comme idée. Fini.
Bon. Voilà, merci beaucoup, je suis désolé, c'est un peu frustrant, mais on m'a dit qu'il fallait avancer sur le temps.